Il est 8h. Le journal, bonjour Bernadette Chamonaz.
Bonjour, New York, terreur au cœur. Une camionnette fauche les promeneurs, 8 morts, 11 blessés graves. C'est un acte terroriste. L'homme dit avoir agi au nom de Daesh. Blessé par la police, il a été arrêté. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial à New York, Grégory Phillips. C'est un symbole de liberté qui est visé, vous entendrez le gouverneur de l'État. Après le 11 septembre, New York frappé à nouveau par le terrorisme. À 8h20, Nicolas, vous recevrez...
Le spécialiste de géopolitique Bertrand Badi nous rejoindra à 8h40. Wassim Nasr, il est journaliste à France 24, auteur du livre « État islamique, le fait accompli », c'est aux éditions Plon. Tous deux répondront à vos questions au 01 45 24 7000. Le standard d'Inter est ouvert, n'hésitez pas à nous appeler.
En France, 2 ans de mesures d'exception, l'état d'urgence prend fin aujourd'hui. A-t-il été efficace? Que propose la nouvelle loi antiterroriste? On fait le point avec Sarah Guibaudot. Russie, censure renforcée sur Internet avant la présidentielle. Distributeur, transformateur, nouveau face-à-face, nouveau bras de fer attendu. Les Républicains, tristesse de l'exclu, vous entendrez le député Rister. Le RER a toujours coupé, l'affaire prend un tour politique. Et puis le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champion, 4 matchs, 4 victoires, jusqu'ici tout va bien.
France Inter.
J'étais dans un Uber en train de regarder mon téléphone et là mon chauffeur a crié « Regardez, cette voiture fonce sur la piste cyclable !» Quand j'ai relevé la tête, j'ai vu 3 ou 4 personnes allongées sur le sol, ensanglantées devant le lycée Stevenson. Et j'ai dit au chauffeur que ça devait être pour Halloween. Il m'a répondu « Non, non, j'ai vu la camionnette rouler sur les gens. »
Des bicyclettes écrasées sur la chaussée, la calandre d'une camionnette enfoncée. New York, 15h hier après-midi, il fait beau, il y a du monde dans la ville. Une camionnette fonce à contresens sur une piste cyclable, fauche cycliste et promeneur et finit sa course en s'écrasant contre un autocar scolaire. 8 morts, 11 blessés graves. Grégory Phillips, bonjour.
Bonjour.
Conducteur blessé par la police a pu être arrêté. C'est officiel, il a bien commis un acte terroriste.
Oui, alors on sait que c'est un homme de 29 ans, originaire d'Ouzbékistan. Il est arrivé ici aux États-Unis en 2010, il y a 7 ans, avec apparemment une carte verte. Le suspect a vécu d'abord dans l'Ohio, puis en Floride, avant d'emménager pas très loin d'ici, dans le New Jersey. C'est dans cet état d'ailleurs qu'il a loué hier la camionnette. Alors l'homme était apparemment complètement passé sous les radars du renseignement américain. Le New York Times et le New York Post ce matin affirment que le suspect travaillait depuis plusieurs mois comme chauffeur pour la société Uber, et selon un cadre de l'entreprise cité par ces deux journaux, il aurait passé sans encombre les vérifications, pas de casier judiciaire ou pas d'antécédent. Mais le caractère terroriste de son attaque ne fait plus aucun doute. Hier, des témoins de la scène ont entendu le suspect crier à la Wakbar. Puis dans la camionnette, les policiers ont, selon plusieurs médias américains, retrouvé une note dans laquelle cet homme prête allégeance à Daesh. Vous l'avez dit, l'assaillant est blessé mais vivant. Les agents du FBI vont donc pouvoir l'interroger dans les prochaines heures ou dans les prochains jours sur son parcours, ses motivations et sur l'organisation de cet attentat.
Merci beaucoup Grégory Phillips en direct de New York, et vous pouvez retrouver d'autres informations sur l'assaillant sur notre site franceinter.fr. Tweet immédiat de Donald Trump après l'attaque: assez, nous ne devons pas autoriser l'État islamique à entrer dans notre pays, et le président des États-Unis ordonne un renforcement du contrôle des étrangers. C'est le premier attentat meurtrier à New York depuis le 11 septembre 2020. Pour le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, c'est un symbole qui est visé.
New York est un symbole international de liberté et de démocratie. C'est ce que nous sommes et nous en sommes fiers. Mais c'est ce qui fait aussi de nous une cible pour ceux qui sont contraires à ces principes, qui s'y opposent. Nous avons déjà vécu ce genre de choses. Nous avons déjà été touchés auparavant. Mais nous continuons à aller de l'avant, ensemble, plus fort que jamais.
Le gouverneur de l'État de New York, Emmanuel Macron, a aussitôt tweeté en anglais « Solidarité avec les États-Unis, notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais ».
Et en France, c'est l'état d'urgence qui prend fin aujourd'hui.
2 ans après avoir été déclenché la nuit des attentats du 11 novembre, il est remplacé par une nouvelle loi antiterroriste. Sarah Guibaudot, bonjour.
Bonjour.
Alors, 719 jours, très exactement, d'état d'urgence, 32 attentats évités, assurent les autorités. Et pourtant, une menace terroriste toujours présente. Alors Sarah, quel bilan ?
Alors ce qui est sûr, c'est que la menace terroriste perdure malgré la déroute militaire du groupe État islamique en Syrie et en Irak. Il y a le risque que représentent les revenants, mais on le voit dans la plupart des attentats depuis 2 ans. Comme cela semble être le cas à New York, ils sont le fait d'individus qui ne sont pas partis en zone de combat, des attaques dites low cost ou de proximité. Pour autant, le président de la République l'a dit lui-même hier à Strasbourg, l'état d'urgence n'est plus efficace. Il a surtout été utile dans les premières semaines. Il n'a pas permis d'éviter plusieurs attentats, Nice, Magnanville ou récemment Marseille. Des attentats déjoués, oui, aussi, des projets plus ou moins élaborés, parfois embryonnaires, mais c'est essentiellement par le travail d'enquête et de renseignement classique.
Alors maintenant, Sarah, quel changement attendre de la nouvelle loi antiterroriste qui remplace à partir d'aujourd'hui l'état d'urgence ?
Pour prévenir le terrorisme, le ministère de l'Intérieur pourra toujours fermer des lieux de culte ou procéder à des perquisitions rebaptisées visites domiciliaires. Il pourra toujours assigner des personnes dans le périmètre de leur commune. Des mesures plus encadrées, l'assignation, 1 an maximum et un seul pointage quotidien. Le débat pour autant n'est pas clos entre ceux qui estiment ces mesures nécessaires, les perquisitions pour lever des doutes ou trouver du renseignement par exemple, et ceux qui y voient une atteinte disproportionnée aux libertés, comme le défenseur des droits Jacques Toubon. Le Parlement a toutefois imposé qu'un bilan soit fait dans 2 ans.
Merci beaucoup Sarah Guibaudot. Dans l'enquête sur l'attaque du Thalys entre Amsterdam et Paris en 2015, premières inculpations en Belgique, 2 Belges qui ont été inculpés donc hier de partir participation à un groupe terroriste. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni une aide au tireur qui, lui, est incarcéré en France. Le procès Mera devant les assises spéciales de Paris. La défense a plaidé l'acquittement hier pour Abdelkader Mera. Aucune preuve de sa complicité dans les assassinats commis par son frère à Toulouse en mars 2012. Verdict demain.
Il est 8h07. Merci d'écouter Inter. Vladimir Poutine verrouille, censure renforcée Bernadette avant la présidentielle.
L'Internet, lieu ô combien dangereux pour les autorités russes qui ont la toile dans le viseur depuis longtemps. Mais cette fois, ce sont les réseaux privés virtuels qui permettent de faire croire que vous consultez par exemple un site de Paris alors que vous êtes au cœur de la Sibérie. Eh bien, ce sont eux qui sont interdits à partir d'aujourd'hui. Jean-Didier Revoin.
Depuis plusieurs mois, il est impossible de se connecter à des sites comme la plateforme vidéo Dailymotion ou le réseau social professionnel LinkedIn, tous deux interdits en Russie. Pour contourner cette interdiction, les internautes russes avaient recours à des VPN, ces réseaux privés virtuels qui permettent de faire croire au système que votre ordinateur se connecte à Internet depuis Paris alors que vous vous trouvez en réalité à Moscou. Depuis aujourd'hui, en vertu d'une loi signée par Vladimir Poutine en juillet dernier, c'est désormais l'utilisation des services permettant de naviguer sur le net de façon anonyme qui est interdite. Officiellement, il n'est pas question d'imposer de nouvelles interdictions aux citoyens, mais de les empêcher d'accéder à des contenus illégaux. Encore faut-il les définir. Et à l'approche des élections présidentielles du mois de mars, l'opposition, qui fait principalement campagne sur Internet, faute de pouvoir accéder aux médias traditionnels, redoute de faire les frais de cette mesure. D'autant plus que le contrôle des autorités sur la toile va encore se renforcer dès le 1er janvier prochain en Russie. Pour utiliser une application de messagerie, ses utilisateurs devront s'identifier en donnant leur numéro de téléphone. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Attention, déception, fin du feuilleton Les Républicains. Pas de rebondissement hier soir au bureau politique. Validé l'exclusion des ministres Darmanin, Le Cornu, des députés Solaire, Rister. Le Premier ministre avait de lui-même annoncé son départ. Le parti prend acte. Soulagement du côté des instances. Le ridicule ne les a pas tués. Du côté des exclus, c'est l'incompréhension. Franck Rister, président du groupe UDI Constructif à l'Assemblée.
Oh, écoutez, peu de tristesse quand même. C'est un parti dans lequel je milite depuis l'âge de 15 ans. Je me suis battu avec beaucoup d'amis pour gagner des mairies, la mairie de Coulommiers, pour gagner des sièges à l'Assemblée nationale. J'ai contribué à dépenser beaucoup d'énergie pour ce parti qui aujourd'hui m'exclut. Mais vous avez bien compris qu'on me reproche quoi ? D'être un des créateurs d'un parti soi-disant dissident ? Mais attendez, je suis avec des UDI et des députés LR. Des UDI avec qui on a fait une alliance électorale aux législatives pour gagner des sièges à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on me reproche de siéger avec eux dans un groupe qui vote un certain nombre de textes contenant des mesures que la droite, notre parti, a toujours défendues. Et encore dans la dernière campagne électorale, on marche sur la tête.
Voilà, Franck Riester, donc l'un des constructifs Macron compatibles, exclu hier du parti Les Républicains. Le trafic du RER A, eh bien, il est toujours coupé ce matin entre la Défense et Aubert à Paris. La fuite d'eau provoquée par des travaux pour l'extension du RER E n'est toujours pas colmatée. La voûte du tunnel serait endommagée et l'affaire prend maintenant un tour politique. La présidente de la région, Valérie Pécresse, demande que toute la lumière soit faite à gauche. Olivier Faure, président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée, concerné aussi en tant que député de Seine-et-Marne au bout du RERD, est exaspéré au micro d'Isabelle Souquet.
Ce qui est insupportable, c'est de penser que pendant tant d'années, la priorité était donnée au TGV sur les trains du quotidien. Alors que, pour prendre l'exemple du RER A, il y a plus de passagers chaque jour que sur toutes les lignes TGV, trains grandes lignes, mises ensemble. Cette priorité extravagante qui était donnée à des gens qui prennent le train une fois par semaine, ou une fois par mois, une fois par an, est insupportable pour des gens qui le prennent tous les jours. Et donc, le sous-investissement de ces dernières décennies n'est pas supportable plus longtemps. Je ne voudrais pas non plus que les efforts des prochaines années soient concentrés sur la seule grande ligne métro express qui ne prend pas en considération la grande couronne, notamment ceux qui empruntent le A, le D, le C, et qui sont malheureusement bien plus loin que la petite couronne. Et moi, ce que j'aurais quand même depuis longtemps, de manière plus large, c'est un Grenelle de la circulation en Île-de-France.
Et pour compenser les perturbations avec ce RER A, plusieurs lignes de métro ont été renforcées et des bus de substitution mis en place. Le budget de la justice voté cette nuit par les députés, c'est l'un des rares en hausse en 2018. Augmentation de près de 4%, plus de 7 milliards d'euros. Ils iront pour plus d'un tiers à la pénitentiaire. Surpopulation, manque de personnel, vétusté, violence dans les prisons. Situation indigne, soulignée par beaucoup de députés pendant les débats, mais aussi par le président de la République lui-même, hier, devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, la CEDH, qui a déjà plusieurs fois condamné la France, d'ailleurs, à propos des prisons. AZF, Total ne lâche rien. La multinationale se pourvoit en cassation après sa condamnation à du sursis en appel. Hier, elle a été reconnue responsable de l'explosion, comme l'ancien directeur de l'usine de Toulouse. 16 ans après la catastrophe qui a fait 31 morts, des milliers de blessés, le groupe échappe donc encore à toute condamnation formelle. C'est un scandale pour les associations de sinistrés qui espèrent que le pourvoi sera rejeté.
Il est 8h12. Distributeur industriel et un nouveau face-à-face.
Et nouveau bras de fer, certainement, avec ces négociations sur les prix qui recommencent. D'un côté, ceux qui veulent vendre au meilleur prix, les autres acheter au plus bas. Malgré la volonté affichée de mieux partager la valeur lors des états généraux de l'alimentation, notamment dernièrement, eh bien l'état d'esprit ne change pas, on le voit avec la crise du beurre, notamment Manuel Ruffez.
C'est un nouveau bras de fer entre industriels et distributeurs qui conduit aujourd'hui à cette crainte de pénurie de beurre. Or, c'est justement à ce genre de situation qu'aurait voulu mettre en terme le gouvernement. Et bien, pour l'instant, c'est raté. À l'ANIA, l'Association nationale des industries agroalimentaires, on se dit donc inquiet pour ces nouvelles négociations. Catherine Chapalin, sa directrice générale.
La question du beurre illustre parfaitement ce dysfonctionnement. Le prix du beurre a augmenté de 170% sur ces 10 derniers mois. Dans les autres pays européens et partout dans le monde, les distributeurs acceptent d'augmenter le prix du beurre et le consommateur n'y trouve rien à redire. Et en France, il y a un blocage. Les distributeurs refusent d'augmenter le prix du beurre.
Les producteurs de lait, eux, font une nouvelle fois le constat que, quelle que soit la situation, elle ne leur est jamais favorable. André Bonnard, le secrétaire général de leur fédération.
Le président Macron a prononcé un discours et ce qui était intéressant, c'était de voir les réactions des gens autour de la salle disant « ben voilà, il nous a botté les fesses à chacun d'entre nous, maintenant à nous de nous mettre au travail ». Premier cas concret, les gens restent dans leur vieux démon de rapport de force et de pression qui ne prennent en otage que les producteurs et les consommateurs et jamais de contrat de filière comme on aimerait que ça se fasse.
Selon l'ANIA, la guerre des prix entre distributeurs aurait détruit jusqu'à 3 milliards d'euros de valeur pour les filières agricoles et agroalimentaires.
Manuel Ruffez, le PSG sur sa lancée, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. 5-0 hier soir au Parc sur les Belges d'Anderlecht. Mention spéciale au défenseur Kurzawa qui marque un triplé. 4 victoires en 4 matchs, le PSG premier de son groupe. Jusqu'ici tout va bien, Sébastien Hazard.
Paris verra donc une nouvelle fois les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en février. D'accord, pas de quoi bomber le torse, vu les ambitions du club, on ne peut pas parler de surprise, mais le PSG possède tout de même la meilleure attaque de la compétition, 17 buts marqués. En 4 matchs, personne n'a jamais réussi à faire aussi bien. En défense, ce n'est pas mal non plus, 0 but encaissé cette saison en Ligue des Champions. Des statistiques vertigineuses accueillies avec une pointe de détachement par le milieu de terrain Adrien Rabiot.
C'est bien, quand on fait bien on est critiqué, quand on fait pas bien on est critiqué. Ça, on est content, ça veut dire qu'on est vraiment sérieux, cette année il y a vraiment quelque chose qui se passe.
Le Paris Saint-Germain, pas toujours impressionnant, on l'a suffisamment rappelé, parfois brouillon aussi, mais terriblement efficace. Sofiane Hani s'en est rendu compte, il évolue à Anderlecht, 9-0 pour Paris. C'est le score cumulé sur l'ensemble des deux rencontres. Dur, très dur d'affronter le PSG.
Ils arrivent à jouer limite les yeux fermés. Et puis ils ont des individualités très très fortes qui savent faire la différence.
Difficile de se projeter, bien sûr. Les meilleures équipes de l'automne ne sont pas toujours au sommet au printemps. Mais ce Paris Saint-Germain-là n'a pour l'instant, en Ligue des Champions, pas fait le moindre faux pas.
Notre club qualifié pour les huitièmes de finale, c'est le Bayern de Munich.
Merci Bernadette, c'était le journal de Bernadette Chamonaz. 8h16, la météo sur France Inter.
La météo avec Switch Assure, comparateur d'assurance emprunteur 100% en ligne. Comparer, switcher, c'est gagné. Rendez-vous sur switchassure.fr.
Stéphanie Fromentin, le soleil prend la main malgré quelques voiles de nuages.
Et c'est à l'est qu'il sera le plus vigoureux car sur toute la moitié ouest du pays, le ciel sera plus souvent blanchâtre que bleu. Ce matin sur l'est, justement, le voile d'altitude n'empêchera donc pas le soleil de briller, dissipant rapidement les brumes matinales qui traînent encore dans les vallées. Et plus au sud, le flux de sud-est va installer quelques nuages plus denses sur le Languedoc-Roussillon, poussés par un vent d'autant à 60-70 km par heure et favoriser l'apparition de nuages bas sur la Corse en cours d'après-midi. Des nuages bas qui vont aussi s'immiscer cet après-midi entre le Finistère et la Charente, renforçant la nébulosité mais s'arrêtant à cette zone littorale, n'impactant pas plus le voile déjà présent sur le reste du pays. Il n'y aura que le quart sud-est, Rhône-Alpes, Franche-Comté et Alsace qui bénéficiera d'un soleil total pour la journée.
Les températures sont en hausse.
Ça ne se sent pas immédiatement au réveil car il fait très frais ce matin avec des valeurs qui oscillent entre moins 1 et 6 degrés d'est en ouest. Ça pique un peu moins autour de la Grande Bleue avec 10 degrés. Cet après-midi, un flux de sud va taquiner Mercure qui va grimper dans des valeurs plus douces pour la saison. Vous pourrez compter sur 13 à 17 degrés sur la moitié nord, 16 à 22 au sud. Il fera 14 à Brest et Strasbourg, 15 à Paris, 16 à Tours, 17 à Lyon, 19 degrés à Nice, 20 à Bordeaux, jusqu'à 22 à Biarritz.